soir et bonne année 2025. Je sais que ça crispe quelqu'un en régie, mais c'est pas grave. Bonsoir Sybille, bonne année à vous, tout en saveur.
Merci, bonsoir Christophe et bonsoir à nos invités. Je vous souhaite aussi de très belles nourritures cette année, tout en saveur, de toutes sortes.
On écoute Tout un plat, le bimestriel de Radio Campus Paris consacré à la cuisine sous toutes ses formes, une émission garantie 100% sans OGM ni perturbateur endocrinien, une émission pour vous faire du bien, rien que du bien, où l'on s'intéresse aussi bien à ce que l'on mange qu'à comment on le mange et surtout avec qui on le mange. Aujourd'hui, après les fêtes, c'est une version allégée que nous vous proposons, une version légère donc, de déguster pendant une heure avec Sybille et nos invités, avec toujours la même ambition, car il faut toujours avoir de l'ambition, n'est-ce pas Sybille ? Tout un plat, c'est l'émission où la cuisine passe à table.
L'émission d'aujourd'hui se fera en deux plats avec nos deux invités du jour qui nous emmènent d'abord l'un au Japon et l'autre vers le pays des boissons non alcoolisées. Alors nous recevrons ce soir Jade Ibrahim qui est auteur de La quête du sushi parfait aux éditions Les Arènes Caumont. Et sur Instagram, vous avez aussi un compte qui s'appelle Nigiri Paris. Et puis Augustin Laborde est cofondateur de la cave sans alcool, Le Pan qui boit, et co-auteur du guide de Paris sans alcool friendly aux éditions L'Indispensable. Est-ce que vous pouvez aussi nous rappeler vos deux co-autrices de ce livre ?
Oui, sur le guide, donc, il y avait Raphaël Bortolin et Maude Caté.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir, merci Bonsoir. De me recevoir.
On vient d'en parler, des fêtes. Quels souvenirs vous avez tous les deux des fêtes de votre enfance ? Allez, comme ça. On se jette comme ça.
Des souvenirs très positifs avant tout et beaucoup de nourriture à chaque fois. Le meilleur souvenir, c'était le petit déjeuner avec plein de choses, tous les restes de la veille, les bûches,
le petit déjeuner du lendemain.
Ça, exactement. Ouais.
J'ai des souvenirs assez chaotiques, surtout que bon, c'était pas toujours fun. Et je me souviens qu'à l'époque, j'aimais pas beaucoup le poisson, ce qui dénote avec le fait que je sois grand amateur de sushi aujourd'hui. Oui. Mais j'étais déjà. La truite fumée et le saumon, ça fonctionnait déjà bien à l'époque.
Vous avez des vues culinaires pour 2025 ?
Aller un peu plus vers de la nourriture vegan. C'est quand même sans une transition totale, mais aller un peu plus vers ça quand même. C'est un gros step.
Manger encore plus de sushi. Toujours plus, encore plus.
Et est-ce que vous avez bu pendant les fêtes ?
Beaucoup, beaucoup trop.
Et justement, je me demandais à Augustin, est-ce que vous ne buvez pas du tout ou
Alors,
vous
je bois, mais pas d'alcool. Donc, je bois plein d'autres choses et on aura sans doute l'occasion d'en parler pendant cette émission, mais plus d'alcool du tout depuis
maintenant
3 ans. Ouais, j'ai arrêté, mais je ne dis pas que je ne reboirai jamais. C'était juste un moment, un choix, et on verra si il s'applique toute ma vie ou pas.
Oui, parce que justement, je me demandais s'il fallait être assez radical dans son choix ou on pouvait aussi chercher la voie de la modération.
Exactement, on peut concilier les deux, on en parlera sans doute, mais nous, 90% de nos clients continuent à boire de l'alcool, donc c'est vraiment signe qu'on peut associer les deux sans se prendre trop la tête, c'est vraiment l'idée. Quoi.
Parce que, Jade, vous mangez des sushis à Noël ?
Je pense que ma famille serait partante, mais le coup par tête pour un petit événement privé comme ça serait un peu trop élevé. Mais bon, on peut manger des sushis le 23 et le 25, juste pas le 24 au soir.
pas le 24.
Non.
Vous êtes professeur d'économie par ailleurs et sciences politiques, on ne vous a pas invité à ce titre, vous êtes, on l'a dit, l'auteur de La quête du sushi parfait aux éditions Les Arènes. Votre livre commence par une description assez je savais qu'il fallait bien que ça s'abonne un moment. Hein. J'ai glissé sur un sushi, une description assez apocalyptique de votre majorité, de vos 20 ans, d'une révélation, vous avez 19 ans, et puis un jour vous allez chez Benki avec votre mère. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là ? D'abord, dans quel état vous êtes ? Parce que...
Je suis dans un état assez pitoyable, c'est-à-dire que je voulais...
J'aurais pas osé, moi.
Non, mais il faut dire les choses comme elles étaient. J'étais en très mauvaise santé, j'étais déprimé, et puis moi qui avais toujours réussi d'un point de vue académique, j'avais rencontré mon premier échec, ce qui était assez douloureux à encaisser. Et puis finalement, ce déjeuner d'anniversaire, il m'a un peu ramené vers mon amour du goût. Quand j'étais assez jeune, je mangeais souvent avec mon père dans un restaurant qui a malheureusement fermé depuis, qui s'appelait Les Routiers à Paris, où on mangeait des belles choses.
Celui de la cité ?
Comment ? Presque Porte de la Chapelle, quasiment à Porte de la Chapelle. Et on mangeait de très belles choses, des pavés de biche, des têtes de veau. Donc, de la belle cuisine française. Et puis, dans mes années d'adolescence, je me suis un peu égaré, je me suis adonné à la malbouffe, aux trucs transformés, aux trucs qu'on veut plus manger du tout. Et puis, ce déjeuner d'anniversaire, il m'a ramené vers le goût des vrais produits, manger de vraies choses, profiter, prendre le temps de manger. C'est quelque chose que j'avais perdu et que, grâce à ma mère, j'ai retrouvé ce jour-là. Et s'en est suivi une quête du goût où déjà, je devais retrouver, moi, la vraie fondation de la cuisine, parce que je mangeais plus de vraie cuisine et ce, depuis des années. Et après, ça a été une quête existentielle parce que ça m'a aussi permis de retrouver une passion, quelque chose à poursuivre. Moi qui avais tant perdu après cet échec sentimental et cet échec académique, ça m'a rouvert une voie vers un futur plus jovial, je peux le dire.
Est-ce que vous pensez que vous auriez pu avoir j'ose le mot épiphanie, en tout cas la même découverte si vous étiez allé dans un restaurant thaï, italien, marocain, un bon...
Je pense, alors...
Parce que là, vous allez dans un restaurant japonais.
Je vais me permettre, mais je vais faire une hiérarchie des cuisines. C'était un grand débat que j'ai eu avec ma sœur. Il y a des cuisines qui ont une vraie gastronomie et un art de la table. Et il y a des cuisines qui ont de très bons plats sans vraie gastronomie. C'est-à-dire que...
C'est quoi la différence?
Pour moi, la différence, c'est qu'il y a certaines cuisines qui élèvent leurs plats avec un niveau de service, un traitement des ingrédients et tout un art culinaire. Et d'autres qui simplement préparent de très bonnes choses sans cet art culinaire. Donc quand vous allez manger dans un grand restaurant français, russe, italien, même il y a des très belles tables en Espagne ou au Japon, vous avez un art culinaire, une poursuite de la gastronomie. Moi, je suis d'origine libano-syrienne, il y a plein de choses qui sont délicieuses qui viennent de chez nous. Pour autant, je pourrais pas dire qu'on a une grande gastronomie de fins arts de la table et qu'on a une grande finesse dans nos plats. Pour autant, c'est très très bon.
Il s'appelle Jad Ibrahim, nous on n'a rien dit.
Pour autant, c'est très très bon et je dénigrerai jamais la cuisine des pays du Moyen-Orient, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Mais toutes les cuisines ne sont pas de grande gastronomie.
Et quand vous êtes allé vers ce premier restaurant japonais, vous vous êtes pas dit en pleine conscience que vous allez rencontrer cette cuisine? C'était vraiment une découverte ou vous savez déjà que Japon vous attirait?
Le Japon m'attirait déjà et ce que je pensais être la cuisine japonaise, je l'aimais déjà. Mais quand j'ai été confronté finalement à ma première vraie assiette japonaise, j'ai compris très vite que je savais pas grand chose et que j'avais jamais mangé de vraie cuisine japonaise. Et c'est là surtout que le choc s'est fait, parce que moi qui aimais manger ce que je pensais être japonais, quand j'ai goûté la vraie cuisine japonaise, c'était intensément meilleur.
Et justement, qu'est-ce que vous avez ressenti?
J'étais subjugué par la qualité des ingrédients. J'avais rarement mangé quelque chose d'aussi bon. Même si j'avais déjà goûté de bons produits dans l'enfance, les produits d'origine japonaise sont traités de manière différente. Et la cuisine japonaise est aux antipodes de la cuisine française, là où la cuisine française fait passer le produit par beaucoup de transformations pour le sublimer, pour lui apporter de nouvelles textures, de nouvelles saveurs. La cuisine japonaise, elle se veut au plus proche du goût naturel du produit. Et donc, vous découvrez un petit peu le vrai goût des ingrédients. Et moi qui n'avais jamais goûté d'aussi bons ingrédients et surtout cuisiné par de grands chefs japonais, ça m'a permis de découvrir le vrai goût de certains ingrédients et donc de m'éloigner d'un coup sec de les mauvais produits transformés que je pouvais consommer au quotidien.
Mais vous aviez, quel était votre rapport avec la culture japonaise?
C'est quelque chose, évidemment, j'ai grandi, on va dire, à partir du milieu du collège avec. J'ai découvert plein de trucs, Dragon Ball, Naruto, GTO, etc.
Je les ai démontés.
C'est un truc, j'en parlais avec quelqu'un qui s'y connaît très bien dans ce milieu-là. Et il y a tout un genre au Japon qui est dans la représentation de la cuisine dans le manga. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mangas, même dans des mangas d'aventure ou d'histoire qui n'ont rien à voir avec la cuisine, il y a toujours des scènes où les auteurs prennent le temps de dessiner les ingrédients de manière très précise. On voit, je prends un exemple assez concret, par exemple Sanji dans One Piece, il y a presque un demi-épisode où il cuisine un curry alors que ça n'a rien à voir avec l'histoire principale de One Piece, mais au Japon, manger ça fait partie du quotidien, presque à chaque minute vous sortez, vous regardez dans la rue, il y a toujours un japonais en train de manger. Les gens adorent manger, quoi qu'ils fassent, ils mangent beaucoup en même temps, et manger c'est une vraie activité. C'est là où je trouve que les japonais sont aussi fous que les français, ils adorent manger. Et donc même les premiers contacts que j'ai eu au Japon, c'était pas des contacts avec de la gastronomie, mais j'avais déjà été exposé à des représentations de la cuisine japonaise qui m'attiraient profondément.
Donc plutôt par les mangas, par les dessins.
Ça a commencé par la pop culture et les jeux vidéo japonais. Puis ça s'est poursuivi, étonnamment, j'en parle pas dans le livre, mais par le théâtre. J'aime beaucoup le théâtre japonais, c'est quelque chose que je trouve assez poétique. Et puis enfin...
Le théâtre classique, le kabuki.
Et puis l'épiphanie, comme vous dites, c'était la découverte de la grande gastronomie japonaise. Et puis la quête folle de 4 ans qui s'en est suivie vers les meilleurs sushis du monde.
Oui, parce que ce que vous aimez, vous, c'est pas les sushis qu'on va acheter en bas, c'est les
nigiri.
C'est quoi la différence entre sushi et nigiri?
Sushi en japonais, c'est simplement un suffixe, donc c'est un petit, donc ça veut dire riz vinaigré, c'est l'abréviation de sumeshi, et c'est un suffixe qu'on place après un mot pour qualifier que c'est un plat à base de riz vinaigré. Donc vous pouvez dire maki sushi, nigiri sushi, shirashi sushi. Et nigiri, en fait, c'est ce que vous appelez les sushis de manière commune. En fait, c'est nigiri, ça vient du verbe nigire, qui veut dire presser. Et donc, c'est les sushis qui sont un petit peu la boulette de riz allongée avec la tranche de poisson par-dessus. Ça s'appelle un nigiri au Japon.
Il faut préciser que vous avez quand même appris le japonais dans cette quête.
Pendant le confinement, je suis désolé pour la Sorbonne, mais voilà, balle perdue. Il n'y avait plus de cours, il n'y avait plus rien à suivre, on ne faisait plus rien. Et je me suis dit, au départ, j'ai beaucoup joué, et puis j'ai fait un ras-le-bol de l'ordinateur. Et je me suis dit, il faut que je fasse un truc utile, et j'ai fini par apprendre le japonais pendant le confinement. Ouais.
On peut dire que ce que vous avez vécu avec les sushis, c'est une sorte d'initiation.
C'est,
ça ressemble. Enfin, c'est en tout cas, dans le livre, c'est ce que l'impression que ça vous donnait.
Plus que ça, mais ouais, c'est d'abord une quête initiatique parce que je découvre un univers qui m'est complètement étranger et puis je me plonge dedans de manière de plus en plus intense. C'est-à-dire qu'au départ, c'est juste pour moi. Après, je crée le compte Instagram parce que je le partage avec les gens. Je fais le tour de la France pour manger de bons sushis. Et puis, je me dis, bah voilà, en France, il y avait quoi, peut-être 7-8 adresses. Et puis, les gens, j'avais peur que les gens se lassent, en fait, de mon compte Instagram. Et je me dis, bah c'est parti, on va partir en Europe. C'est pas si loin. Les billets d'avion, force à Vueling, sont pas si chers et j'ai pu commencer à aller en Espagne, en Angleterre, au Danemark. Sauf que la passion, elle a pris beaucoup plus de temps et puis elle s'est mise à me coûter cher. Donc je faisais des allers-retours dans la journée et puis je découvrais plein de choses et c'était assez fou parce que moi.
Oui, parce qu'il y a un moment, vous partez un matin.
C'est ça, je pars à Copenhague à 6h du matin, je déjeune chez Mads Battefeld à 13h et je suis de retour à Paris à 17h30 pour pouvoir aller enseigner à 18h.
Mais tout ce stress, bah, moi je parle de moi, hein, tant pis, c'est pas grave. Mais tout ce stress, ça vous empêche pas de profiter du repas?
Non,
ça doit être un stress délirant.
Pas le moins du monde. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans un restaurant de sushi, c'est des endroits un peu, bon, c'est cliché de dire ça, mais c'est un peu des endroits très zen où il y a du calme, vous voyez du bois, des fleurs, des pièces d'art. Vous détendez, vous laissez tout ce qu'il y a en vous à l'extérieur et vous laissez finalement tout ce que le repas, le moment, cet omakase peut vous apporter, ça vous comble et puis après vous ressortez et parfois c'est un peu dur mais vous retournez à votre vie. Mais le moment du repas, c'est un moment intime, c'est un moment de partage déjà avec les autres clients au comptoir et aussi avec le chef. Comme je le raconte assez bien dans le livre, c'est que des moments qui sont enrichissants. Donc ce serait vraiment dommage, surtout vu à quel point à l'époque je travaillais, je payais cher et je poursuivais cette passion, ça aurait été dommage de tout gâcher avec les problèmes du quotidien. Ils existaient et c'est pas parce que j'y pensais pendant le repas qu'ils allaient disparaître, donc autant les laisser de côté, je les laissais à la porte, j'allais profiter du moment, j'allais m'enrichir de ces moments intenses, et après je ressortais pour reprendre ma vie aussi compliquée était-elle.
Vous avez prononcé le mot omakase, vous pouvez préciser ce que c'est?
Alors omakase, c'est la version polie un peu du verbe makaseru en japonais, qui veut dire je m'en remets à vous, et donc en fait quand on va dans des restaurants
comme
de sushi...
moi avec vous.
Quand on va dans les restaurants Christophe. De sushi... Et bah, alors surtout, c'est le cas au Japon, mais d'autant plus en dehors du Japon, les clients, ils connaissent pas grand-chose au sushi, et donc, il faut pas qu'ils commandent eux-mêmes, parce qu'ils ont pas forcément les notions de quels poissons sont bons dans quelle saison, quels poissons il faudrait choisir à ce jour-là, vu le niveau de la mer, ou ce genre de choses. Et donc, on laisse le chef, qui a une expérience beaucoup plus grande que la nôtre, choisir les poissons qu'on va manger, et établir le menu. On a une idée globale de ce qu'on va manger, hein, 5 à 6 entrées, puis quelques pièces de nigiri, un maki, un dessert, mais on laisse le chef choisir. Ça va même plus loin, au Japon, il y a des chefs en toute humilité qui sont d'incroyables chefs sushi, qui me disent, moi, ma connaissance, par exemple, des crustacés, elle est pas impeccable, donc je laisse le poissonnier choisir les crustacés que je sers. Il y a un vrai lien de confiance du fournisseur à la cuisine et évidemment de la cuisine au client.
Vous pouvez juste nous rappeler ou expliquer comment sont organisés ces restaurants, parce que c'est très particulier, en c'est fait, pas un restaurant avec une salle.
C'est ça, les restaurants de sushi, c'est des comptoirs qui vont de 7 à 12 personnes en fonction à la fois des préférences du chef et on va dire de sa volonté de faire de l'argent ou non. Hein. Et je verrai qu'il y a des comptoirs à 12 clients, ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients par jour, ça fait plus d'argent. Enfin bon, quoi qu'il en soit, c'est des petits restaurants. Parfois dans des pièces aveugles au Japon, même en France d'ailleurs, il y en a qui sont dans des pièces aveugles, où c'est un comptoir de 7 à 12 clients, avec un seul chef et un assistant devant les clients, qui prépare tout le repas devant vous. On vous sert d'abord ce qu'on appelle les ensai, ou tsumami, donc c'est les petites entrées qui viennent précéder le repas, c'est-à-dire que vous allez retrouver par exemple du poisson grillé, des langoustines, ce genre de choses. Et puis une fois que les tsumami sont servis, le chef, pendant que vous mangez les tsumami, il a fait la découpe de chaque poisson, donc il a découpé les netta, les poissons qui viendront surmonter le riz pour former le nigiri sushi. Et donc une fois que vous avez terminé les entrées, le chef il se fait servir par l'assistant le riz petit bol par petit bol, faut pas sortir tout le riz d'un coup sinon il refroidit, et donc il prend le riz chaud, il façonne la boulette de riz dans ses mains, il la surmonte du poisson avec le wasabi, il vous le sert, une fois que c'est posé sur le plateau devant vous, vous le mangez immédiatement, il n'y a rien à faire, le poisson est déjà assaisonné, le wasabi est sous le poisson, vous avez qu'à déguster. Et puis il passe au client suivant immédiatement, c'est-à-dire que vous mangez pas les sushis tous d'un coup sur une assiette, ils vous sont servis un par un dans un ordre que le chef pense être le meilleur pour le service ce jour-là.
Et c'est toute cette ambiance aussi, ce rituel qui vous a plu en plus de la nourriture?
Bah, je trouvais que moi qui étais aussi passionné de gastronomie française, et je fais beaucoup de bonnes tables françaises, mais quelque chose de plus au comptoir, c'est que vous allez manger seul, déjà vous partagez avec le chef, l'assistant, l'équipe de service est beaucoup plus proche, et puis surtout, petit à petit, au départ c'est moi qui découvrais avec les autres clients, et maintenant c'est plutôt moi qui transmet aux autres clients plein de choses qu'ils connaissent pas, et donc il y a une vraie relation de proximité, puis j'ai rencontré des gens formidables au comptoir de sushis. Je pourrais faire un coucou à plein de monde, mais...
On mange en silence, il n'y a pas de musique.
Alors, ça dépend des restaurants. Au Japon, non, il n'y a pas de musique. Il y a des restaurants aux États-Unis, en Angleterre, à Paris, où il y a de la musique. Mais on ne mange pas tant que ça en silence. Hein. Les gens rigolent entre eux, donc les clients qui viennent à plusieurs forcément rigolent entre eux. Les gens qui ne se connaissent pas parfois communiquent entre eux. Et puis, on parle avec le chef, ce n'est pas non plus un silence de mort. Non, je pense que l'atmosphère est plutôt bonne.
À Radio Campus Paris, il y a de la musique, je crois. C'était AD, play pause. Voilà, c'est toujours tout un plat avec Sybille. Bonjour Sybille.
Bonjour Christophe et nos deux invités, Jade Ibrahim qui est auteur de La quête du sushi parfait.
C'est mon casque, j'ai un retour pourri, mais allez-y.
Édition Les Arènes Caumont. Et Augustin Laborde, cofondateur de La cave sans alcool, Le pan qui boit, et co-auteur du guide de Paris sans alcool friendly aux éditions L'Indispensable.
Augustin Laborde, vous aimez les sushis ?
J'adore, mais là je me rends compte que je ne connais sûrement pas les vrais sushis. J'ai hâte de découvrir ça et de lire.
Vous allez vous abonner au compte Instagram de Jade ?
Dès que je sors l'émission.
Ce sera un plaisir de partager un repas avec vous, d'autant plus qu'il y a beaucoup de restaurants de sushis qui aujourd'hui proposent des accords mets et boissons sans alcool.
Oui, exactement. Justement, qu'est-ce qu'ils proposent comme...
Bah alors, au Japon, c'est principalement du thé, et il y a des grandes bouteilles de thé de luxe, donc vous avez des thés au jasmin ou des thés oolong de luxe, mais en dehors du Japon, je sais que par exemple, chez Xavier Pincec, à Inoki en Bretagne, il y avait des accords avec des kombucha ou d'autres boissons fermentées.
Vous faites vous-même vos sushis ?
Alors oui, à la maison, mais c'est-à-dire que quand on est à la maison, il vaut mieux faire des sashimi, c'est moins compliqué, parce que ce qui fait briller le sushi, c'est le riz, et faire un bon riz à sushi, c'est pas à la portée de tout le monde, d'autant plus qu'il faut beaucoup d'espace, parce qu'il faut pouvoir, une fois qu'on a fini de le cuire, le mettre dans une grande boîte en bois, qui est circulaire, et il faut un petit peu mélanger le riz avec le vinaigre à la cuillère dans un grand espace pour pouvoir l'aérer, sans quoi le riz devient gluant, se tasse, et vous n'avez pas des très bons sushis.
Je me posais une question justement sur cette quête, est-ce qu'on peut apprécier le dernier sushi que vous mangez dans votre livre que vous décrivez comme presque le nec plus ultra de sushi, enfin de nigiri plutôt, est-ce qu'on pouvait l'apprécier si on n'a pas toute la quête derrière?
Je pense que oui, évidemment vous allez l'aimer, hein, parce qu'il faudrait quand même, à moins que vous n'aimiez pas le poisson cru, il faut être fou pour ne dire aller chez Sushi Alai et dire que c'est pas bon, mais je pense que évidemment la quête rajoute de la profondeur, l'attente qu'il y a eu pour aller dans ce restaurant, toute l'anticipation, la construction du goût que j'ai fait pendant 4 ans m'a fait plus apprécier que la personne qui serait allée instantanément. Mais je pense que même si vous y allez sans ne rien connaître, vous passerez difficilement un mauvais moment.
Et est-ce qu'à l'inverse, si en partant on vous emmène dans un resto de sushi dans la rue, là, dans le quartier de la Bastille, vous y allez ou vous refusez parce que vous savez qu'à quel point ça peut être bon et ça non?
Je pense que je veux pas être vu là-bas.
Vous craignez qu'on vous voit, mais bon.
Exactement. Non, honnêtement, j'en parlais avec un autre connaisseur japonais qui s'appelle Alex Kajileu, et il disait, on se disait que même dans ces restaurants-là, il n'y avait pas que du mauvais, parce qu'il y a des produits qui sont surgelés, il y a des gyoza surgelés ou il y a des brochettes surgelées qui sont comestibles, c'est mangeable, quoi. Mais c'est évidemment pas une très bonne représentation de la cuisine japonaise, et par contre, on est d'accord sur le fait que la qualité du saumon d'élevage, ça je vous en prie, je vous conjure d'éviter le saumon d'élevage, c'est très mauvais pour la santé. La qualité du saumon d'élevage et puis le riz horrible, hyper pâteux et sucré qu'on sert dans ces restaurants-là, c'est pas possible.
Vous disiez tout à l'heure que la cuisine japonaise avait sublimé le goût naturel du produit. Ce qu'on découvre aussi en vous lisant, c'est que c'est très très préparé. Les poissons sont préparés à l'avance, il y a des marinades, il y a la manière de le couper, il y a beaucoup de choses.
En fait, il y a beaucoup de choses. Au Japon, on dit que le poisson a le goût de la coupe. Donc c'est-à-dire qu'on dit que le poisson, la manière dont il est coupé influence le goût qu'il a. Et le poisson ne cuit pas, évidemment, c'est du poisson cru. Donc la cuisine du sushi, c'est la cuisine du temps, c'est-à-dire qu'on découpe le poisson ou on l'entaille, on le sale en avance de manière à supprimer l'excédent d'eau, avoir une meilleure texture, assécher un peu le poisson, ou au contraire, on le marine, parfois juste dans de l'eau et du sel, parfois dans du vinaigre, parfois dans la sauce soja, pour lui redonner plus de chair, ou alors pour le rendre plus fondant. Donc c'est sûr qu'on veut servir le produit avec son goût naturel. Pour autant, on peut mélanger deux produits pour sublimer les deux. C'est-à-dire que la sèche tout seul, c'est très sympa, mais la sèche avec du sudachi, donc un petit agrume japonais, c'est meilleur. C'est comme le pain et le beurre, c'est très bon, mais si vous mettez du beurre sur du pain, c'est encore meilleur, quoi.
C'est pas moi qui dirais le contraire venant du Nord, mais c'est... Mais pour revenir à ça, il y a un moment où vous racontez qu'il y a un thon japonais, je crois, où on dit qu'à l'intérieur, on peut faire... il y a quatre endroits où on peut couper le sushi, le nigiri, on va être précis, et les quatre n'ont pas le même goût.
Comment ?
Vous dites dans votre livre à un moment qu'il y a un thon particulier, je crois que c'est le thon.
Oui, c'est ça. Donc, en fait, le
et
thon,
on peut en couper à quatre endroits
alors,
différents.
Le thon, vous avez huit parties différentes, voilà. Vous pouvez manger j'en parle que de quatre dans le livre parce que toutes ne sont pas hyper bonnes à manger, mais vous avez plein de parties différentes.
Mais ils ont vraiment des goûts différents ?
Oui, ça n'a rien à voir. C'est vraiment comme si vous mangiez la partie la plus rouge du bœuf et qu'après vous mangiez le Chateaubriand ou la partie avec le plus de gras, ça n'a pas le même goût. Alors évidemment ça reste du thon, mais les variations de goût sont telles qu'on note ça comme des pièces de sushi différentes.
Et vous avez parlé de la manière de couper le nigiri. Est-ce qu'il y a un rituel qu'il y a autour de la manière de préparer?
C'est-à-dire que c'est une tradition qui est vieille de plusieurs siècles et chaque apprenti suit un peu les pas de son maître en essayant de trouver de nouveaux chemins ou de nouvelles préparations qui pourraient être intéressantes. Ce qui est difficile au Japon parce qu'il y a quand même la notion du fait que les chefs cuisiniers sont pas très créatifs, ils sont artisans. Ils répètent vers la perfection, donc ils répètent ce qu'ils savent déjà petit à petit pour pouvoir affiner la qualité de leur travail. Mais oui, il y a vraiment un rituel, c'est-à-dire que par exemple, surtout c'est des poissons auxquels ils sont attachés, je sais que Arai, le dernier dont je parle dans le livre, quand il a le morceau de thon gras, de chutoro dans les mains, il le retourne 4-6 fois pour voir un peu à l'œil le meilleur angle pour couper. Une fois qu'il s'est décidé, il commence à entailler. Mais c'est-à-dire qu'il ne coupe pas comme vous ouvririez, je ne sais pas, un concombre et vous vous mettriez à couper sur votre planche chez vous, quoi.
Vous écrivez à un moment, l'hospitalité et le respect sont aussi importants que la technique culinaire.
Ouais, mais ça.
C'est plus, ouais. Donc, on fait pas seulement que manger, on découvre tout un art de vivre.
Il y a un truc au Japon qui s'appelle omotenashi, c'est l'hospitalité.
C'est celle qui parle anglais. Japonais, pardon.
c'est la vision de l'hospitalité des Japonais et la manière dont les serveuses vous accueillent, dont les chefs vous traitent. Alors, si c'est pas tout le temps comme ça, mais en général, la manière dont les services vous accueillent, les chefs vous traitent, l'atmosphère qui existe dans le restaurant, c'est vraiment une valeur ajoutée, quelque chose de supplémentaire, et ça rend le moment encore plus indescriptible. C'est d'ailleurs pour ça que je disais au tout départ que je laissais un peu tout mon bagage derrière, parce que j'entrais vraiment dans un univers qui était différent, et il n'y avait pas forcément besoin de faire plus. C'est-à-dire que j'étais accueilli, je ne vais pas dire comme un roi, mais vraiment au Japon, le respect et l'hospitalité qu'il y a pour le client vous font vraiment sentir comme si vous méritiez d'être là à ce moment-là et vous méritiez d'en profiter.
Et dans votre livre, il y a une anecdote très révélatrice. C'est le moment où vous vous retrouvez à New York dans un bar à sushi très luxueux, très chic, mais vous êtes avec des gens qui, on a l'impression que vous ne les aimez pas beaucoup. Ça veut dire que ça compte aussi les gens avec qui on est.
Ah bah oui, c'est sûr que si vous partagez de la bonne nourriture dans une table de gens exécrables, c'est pas très agréable.
Et surtout là, vous êtes 7, hein.
C'est ça, il y a beaucoup de proximité, donc vous retrouvez un peu coincé avec des gens. Je vais pas dire que je les méprise, mais bon, on va dire que c'est un secret pour personne, hein, l'Américain moyen n'est pas le citoyen de la Terre le plus futé, et donc on se retrouve coincé avec des gens qui ont aucune appréciation pour le produit, qui s'en fichent du chef, qui s'intéressent pas à l'histoire, qui sont là parce qu'ils, surtout à New York, hein, qui sont là parce qu'il faut être vu là, ou qui sont là parce que c'est l'endroit pour frimer, pour faire une story, etc. Et vous pouvez pas passer un bon moment en compagnie de ces gens-là. Tout comme vous emmèneriez pas quelqu'un dans un concert de classique s'il passe sa journée à écouter du rap sur enceinte, quoi.
Ou elle aurait pu avoir le même émerveillement que vous l'avez à 20 ans.
Mais ça veut dire que, oui, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a une sociabilité qui se crée avec les gens avec qui vous êtes.
C'est ça, il faut pouvoir créer
un lien. Vous pouvez vous parler des autres endroits où vous êtes allé, vous échanger des... Moi, je connais pas tout ce monde-là.
C'est un petit monde, et ça m'est déjà arrivé de recroiser deux fois la même personne à des comptoirs différents. Mais oui, c'est clair que les gens... Je ne vais pas dire qu'ils sont en compétition, mais quand vous croisez d'autres gastronomes, ah oui, où est-ce que toi t'es allé, qu'est-ce que tu bois, qu'est-ce que tu manges. Il y a une sorte d'amitié-compétition qui se crée, du style, on regarde déjà si la personne avec qui on partage a vraiment une connaissance, et puis bon, parfois vous avez des gens pédants, parfois vous avez des gens agréables, parfois vous avez des gens qui ne connaissent rien, mais qui sont humbles et qui ont envie d'apprendre, et puis parfois, alors là c'est les pires, vous avez des gens qui connaissent rien et qui parlent beaucoup, hein. Et généralement les experts ne parlent pas beaucoup.
Parce que vous dites à un moment que vous avez réussi à réserver dans un restaurant, ça veut dire qu'en fait il y a une barrière à l'entrée.
C'est alors au Japon beaucoup, il y a beaucoup de barrières à l'entrée, c'est-à-dire que n'importe qui peut pas aller dans n'importe quel restaurant, il y a beaucoup de restaurants qui sont entre guillemets des clubs privés. Il faut être amené une première fois par un habitué du restaurant, et si le chef vous a à la bonne, vous pouvez réserver. Alors évidemment pour les touristes, il y a des services de conciergerie qui sont très très chers, c'est-à-dire que vous réservez dans un restaurant et puis vous payez le fait de réserver coûte entre 50 et 60 euros parce que la conciergerie se porte garant pour vous, entre guillemets. Mais oui, le monde du sushi et le monde des grands restaurants japonais est un monde très fermé dans lequel, malheureusement, n'importe qui n'est pas le bienvenu. Ce qui n'est pas une... Moi, c'est pas un truc que je trouve... Enfin, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça cool, ils appellent ça en anglais gatekeeping, et on laisse les étrangers dehors. Moi, au contraire, je trouve que la gastronomie, ça se partage, et il y a beaucoup de jeunes chefs au Japon, et surtout en dehors du Japon, qui font plus trop ce système-là et qui laissent toujours des places, entre guillemets, pour les nouveaux, pour que tout le monde puisse venir découvrir et profiter de cette cuisine.
Et il y a toute une hiérarchie, parce qu'il y a un moment où vous voulez aller dans un des grands restaurants japonais et on vous oblige à aller au sous-sol. Enfin, alors finalement,
avec
ça se fait pas.
Le sous-chef.
C'est ça. D'abord, souvent, quand vous rentrez la première fois, vous pouvez rentrer avec le sous-chef ou dans un comptoir secondaire et petit à petit essayer d'aller au comptoir principal. Mais oui, il y a une hiérarchie aussi parce que, comme j'ai dit, entre 7 et 12 places, ils font 5.
Mais donc, ça se mérite.
Ah, bien sûr. C'est beaucoup de boulot et beaucoup d'argent jeté en l'air.
Non, mais le chef estime que.
Du coup, les critères. C'est quoi les critères pour monter les étages.
Ça dépend. Il y a trois trucs. Pour les clients japonais, c'est simplement la relation que vous entretenez avec le restaurant. Et au contraire, pour les clients étrangers, alors il y a des chefs qui aiment bien les clients qui font des grosses additions. Par exemple, je pense à des chefs qui sont dans le bouquin. Il y a des clients chinois qui viennent faire des additions à presque 500 000 yens, soit 2400 euros. Donc c'est sûr que quand il y a un client qui dépense 2400 euros en une nuit, il revient. Et puis il y a des chefs qui ont déjà largement assez d'argent. Il y a beaucoup de chefs sushi qui sont très très riches à Tokyo. Et eux, plutôt, ils s'intéressent aux clients qu'ils connaissent, aux clients passionnés, aux clients respectueux et aux clients qui arrivent à sociabiliser avec leurs habitués. C'est-à-dire que si vous arrivez à créer des liens avec les clients qu'ils apprécient déjà, et ben forcément, ils sont contents de vous recevoir.
Et par exemple, le fait que vous soyez Instagrammeur, je vous avais peut-être très mal prendre le mot, mais tant pis. C'est bien vu, c'est mal vu. En tout cas, le fait que vous ayez un compte Instagram où vous le montrez.
Bon, ça va, vous avez pas dit influenceur, donc ça va, je le dis bien.
Bon, sinon, c'est pas grave, vous avez une bouteille d'eau, vous pouvez y aller.
Je suis Instagrammeur, oui. Au Japon, ça n'a aucune valeur.
Non, mais ça les dérange pas, à contrario.
Ah, bah, il faut demander d'abord, est-ce que j'ai le droit de prendre des photos, est-ce que j'ai le droit de filmer. Il y a des chefs qui disent oui, tu peux prendre des photos. Il y a des chefs qui disent oui, tu peux prendre des photos et filmer, ne filme pas les autres clients. Il y a des chefs qui veulent rien du tout. Et on respecte parce que c'est chez eux, c'est leur maison, c'est leur restaurant, c'est le truc qu'ils ont mis des années à bâtir, donc on respecte.
Ils n'ont pas besoin d'une pub en particulier.
Non, je pense qu'ils sont pleins toute l'année avec des listes d'attente plus de 1 an, 2 ans, donc ils n'ont pas besoin de pub.
Vous avez vu les vins là que vous aviez repérés? Vous avez visité les vins, il vous en reste encore à voir? Parce qu'il y a un top 20, et vous avez, d'un moment dans le livre, vous dites que vous voulez voir les vins.
Il m'en reste encore 2 ou 3, surtout un à Tokyo, qui s'appelle Masamichi Yamamoto.
S'il nous écoute.
Je m'étonnerai, mais je pense qu'il doit être, il doit être au golf. Mais si un jour j'arrive à mettre un pied chez lui, j'entendrai chez
Radio Campus. Parce qu'il est très très
select. Il est overbooké.
C'est une passion qui vous a coûté beaucoup. Bah, sans rentrer dans des considérations.
Beaucoup trop d'argent, on va dire que peut-être en 4 ans, j'ai peut-être dépensé 70 000 euros.
Ça a vraiment été, c'est une passion, quoi. C'est comme quelqu'un qui achèterait des voitures de luxe.
Pendant longtemps, ça a été le but de ma vie. Jusqu'au repas chez Sugita et chez Arai fin 2024, c'était le but de ma vie.
Mais justement, dans le livre, vous expliquez un peu comme si vous aviez essayé de trouver le nigiri. Comment vous êtes ressorti après?
Finalement, comme je raconte un peu dans le livre avec la discussion avec le chef de JKC, Thiago Cardoso da Silva, il n'y a pas de sushi parfait. Alors évidemment, à un niveau... Donc on parlait de la hiérarchie des restaurants. Les restaurants qui ont la médaille d'or à Tokyo, ils ont un niveau de technique qui est... inclassifiable, c'est vraiment les meilleurs du monde. Et puis ils ont des styles différents. Et à partir de ce moment-là, vous choisissez le chef dont le style vous plaît le plus. Mais il n'y a pas réellement de sushis parfaits. Il y a des sushis parfaitement exécutés en termes de technique, les riz sont impeccables, la coupe des poissons est nette. Mais le sushi parfait pour moi sera pas peut-être le même que pour Sibyl ou peu importe.
Mais une fois qu'on a mangé le top, on a encore envie d'en manger ou pas?
Bien sûr.
Bon, on réécoute de la musique. Allez.
Après, j'ai pas sur le point de m'inviter, j'ai largement assez parlé.
Je suis fatiguée, repense mes angoisses qui bousculent mes sens. Il n'y a plus de... Allez, 20h37, nos invités commencent à avoir faim. Et c'était Billy qui, elle, avance. Hein. C'est même le titre de sa chanson, ça s'appelle J'avance. C'est un peu comme vous, Sybille.
Tout à fait, j'avance toujours.
Et voilà, c'est toujours tout un plat. Et on repart avec vous, Sybille.
Et avec toujours nos deux invités.
Eh bien, bien sûr.
Jade Ibrahim, auteur de La Quête du Sushi Parfait, aux éditions Les Arènes Cobon. Et Augustin Laborde, cofondateur de La Cave Sans Alcool, Le Pan qui boit, et co-auteur du guide de Paris Sans Alcool Friendly aux éditions L'Indispensable. Et justement, sur le site du Pan qui boit, vous indiquez que vous proposez des boissons en adéquation avec des sushis. Alors, ça veut dire qu'on peut boire des, on peut manger des sushis sans boire du vin blanc, et on peut même manger des sushis avec des boissons sans alcool. Oui. Voilà, je m'en mets complètement les pinceaux.
Non, mais oui, en effet, maintenant on peut boire, enfin avoir une vraie expérience gustative de boisson en dehors du vin. On peut vraiment, comme maintenant même avec des accords avec alcool, vous avez plein d'autres choses que le vin. Ça s'applique aussi sur son alcool. Il y a plein de choses à tester. Par exemple, nous, mais après c'est très subjectif évidemment, et puis c'est un art qui est relativement nouveau. Mais avec les sushis, bah, comme Jade le rappelait, le thé marche très bien, le kombucha, bah, comme ce que vous avez, comme ce que je viens de vous servir, ça peut très bien fonctionner aussi. Et puis, je crois que sur le site, on suggérait un pétillant, du chardonnay désalcoolisé qui peut très bien aller aussi avec des sushis.
Et justement, alors, on va faire une dégustation en direct. Qu'est-ce que vous avez
ouvert ? Alors là, je vous ai ramené, en fait, une boisson comme on les aime beaucoup. Déjà, c'est produit localement, c'est produit à Paris. C'est Archipel qui est connu déjà un petit peu parce qu'il faisait des kombucha très originaux. Donc,
c'est un producteur.
Il y a plus forcément... Exactement, oui, pardon. C'est Archipel, donc derrière, c'est Achille et Pierre. Qui font ça près du canal dans le 19e. Okay. Donc là, c'est un assemblage. Donc c'est beaucoup plus complexe qu'un kombucha. Donc ils réutilisent le ferment, mais qu'ils vont faire donc fermenter.
Ils aromatisent, là, il y a un petit goût de.
Il y a plein de choses dedans. Il n'y a pas d'arôme ajouté.
Ah, on ne sait pas,
Et vous aurez, si vous avez plein de choses, la liste est très longue. Donc je ne vais pas tout faire, mais vous avez une infusion de feuilles de framboisier, de.
C'est ça que j'ai reconnu.
De la menthe, du yuzu, de la verveine.
Ah, c'est la verveine,
du pamplemousse et du poivre noir pour m'arrêter là. Donc, c'est en fait, eux l'ont un peu conçu comme une sorte de sauterne, s'il fallait reprendre une version un peu alcoolisée. Et donc ça, c'est un peu la nouvelle catégorie de création gastronomique, donc qui cherche plus à copier une boisson alcoolisée, donc qui s'émancipe un peu du modèle alcool, mais qui propose une vraie expérience complexe, riche et passionnante.
Et ça, c'est destiné à qui ? Aux restaurateurs, alors, c'est
Archipel pour les reprendre. Eux, ils ont plusieurs gammes. Cette gamme-là est un peu le haut de gamme. Donc, très concrètement, autour d'une vingtaine d'euros. Donc, ça, c'est plutôt destiné à des restaurants, alors gastronomiques ou pas. Ça a été conçu avec un chef sommelier, Florent Martin, qui était le meilleur sommelier de France en 2020.
Faites attention.
C'est vrai que c'est intéressant avec, c'est que c'est très long en bouche. Donc, c'est assez semblable justement à du vin ou alors à toute boisson alcoolisée qu'on pourrait. Il y a plusieurs étapes.
Exactement. La difficulté du sans alcool jusqu'à il y a encore assez récemment, c'est que c'est assez court en bouche. Donc vous le buvez, en effet, le nez est très intéressant, la première impression en bouche aussi. Mais ça passe assez vite. Donc maintenant, on arrive sur un peu la deuxième génération de ces boissons-là où il y a justement un peu de longueur en bouche. Donc souvent, le poivre va aider, le gingembre aussi. En fait, tout ce qui va venir un peu chauffer l'intérieur de votre gorge et qui va faire que. Même quelques secondes, voire quelques minutes après, vous avez toujours une impression en bouche très forte.
Vous, qu'est-ce qui vous a amené aux boissons sans alcool ?
Alors, à titre personnel, moi, j'ai arrêté de boire l'alcool en gros pendant le confinement. Donc, j'ai pas appris le japonais, mais j'ai arrêté l'alcool, ce qui était aussi utile.
Bonne résolution.
Voilà, exactement.
À vous deux, on a l'Académie des sciences.
C'est ça. Quelque chose près. Donc voilà, j'ai arrêté, mais très rapidement. Et pareil, j'adore aller au restaurant, sortir entre amis, etc. Donc, très rapidement confronté à deux questions. Bah, maintenant, qu'est-ce que je vais boire ? Et où est-ce que je vais l'acheter ? Donc, à l'époque, il n'y avait pas de magasin dédié en France à ça. Donc, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire, au moins à Paris, d'essayer de rassembler un peu tout ce qui se fait de mieux en sans alcool. Voilà, il m'a fallu en gros un an et demi de développement de projet.
Vous faites quoi là ? Vous faites une étude de marché ? Parce que si vous arrêtez de boire,
de boire, j'ai fait mon petit tableau Excel sur mon ordinateur. J'ai dit, bah, là, ça j'ai goûté, j'ai bien aimé, ça j'ai goûté, j'ai pas aimé. Donc, au bout de quelques mois, j'avais déjà une centaine de boissons. Et puis, je voyais bien que sur Internet, il y avait une offre qui commençait quand même à fleurir. Donc, je me suis dit, j'aime pas acheter sur Internet. Donc, pourquoi pas rassembler tout ça dans un lieu physique où on pourrait organiser des dégustations, faire rencontrer les clients et les producteurs. Où les clients pourraient lire les étiquettes, voir ce qu'il y a dessus, poser des questions, enfin bref, bénéficier d'une vraie expérience de conseil en fait.
Et qu'est-ce qui vous amène à arrêter de boire de l'alcool ?
Alors moi j'ai la chance de ne pas avoir de problème d'addiction ou quoi que ce soit, j'ai souvent fait des pauses, alors sans revenir sur ma carrière, mais j'ai longtemps vécu à l'étranger, notamment en Afghanistan, enfin dans les pays en guerre, on vivait souvent confinés. Et à cette époque, je buvais, je savais que pour moi, être confiné chez moi avec de l'alcool, c'était pas quelque chose de positif, ou en tout cas, j'en ai rien tiré de positif. Donc, quand c'est arrivé, j'ai arrêté. Ça a duré, du coup, 2-3 mois non-stop. Ça m'a pas du tout manqué. Au contraire, très rapidement, j'ai vu des effets très positifs sur le sommeil, la concentration, l'humeur, etc. Et voilà, quand tout a réouvert, je me suis dit, pourquoi pas continuer un petit peu? Là, voilà, j'avais des alternatives. Donc, en fait, ça s'est fait de fil en aiguille. Encore une fois, je dis pas que je ne reboirai jamais. C'était absolument, c'est un moment de ma vie. Et pour l'instant, je regrette absolument pas, quoi.
Et ce qui est intéressant dans le livre et aussi, j'imagine, dans votre cave, c'est qu'on voit la panoplie de toutes les propositions qu'il y a sans alcool. On peut penser vin sans alcool ou mocktail, le terme que j'ai compris que vous n'aimez pas trop.
Mais... Pas trop, en effet, mais on le trouve un peu réducteur et un peu on moque personne et on tient pas à être moqué. Donc on va plutôt utiliser le terme de cocktail sans alcool, tout simplement, quoi. Oui, en fait, l'univers du sans alcool, il est quasiment infini maintenant. Mais très concrètement, quand on a ouvert il y a 2-3 ans, on avait 250 références. Maintenant, on en a plus de 600. Et la seule limite, c'est les murs. En fait, on n'a plus de place pour en faire entrer. Mais l'offre, elle se diversifie. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on reçoive des échantillons.
Mais est-ce que tout est très bon ?
Non, tout n'est pas très bon, évidemment. Ce serait malheureusement trop facile.
C'est le cas aussi pour le vin. Hein. Vous avez des exactement, vins qui sont horribles.
C'est ce que j'allais dire. Comme dans l'alcool, vous avez du bon et du mauvais. Dans le sans-alcool aussi, c'est tout nouveau. Vous parlez des vins désalcoolisés. Il y a du bon et du moins bon aussi, donc tout ça fait que de se développer. Mais pour reprendre le vin, ça fait des millénaires qu'on fait du vin, le sans alcool c'est relativement nouveau, donc il faut le temps d'apprendre, quoi.
Tout à l'heure, Jade, en nous parlant de ces... On prononce bien Jade ?
Oui.
J'ai un doute d'un coup.
Il n'y a pas de...
Est-ce que vous nous avez expliqué que découvrir le sushi, c'est aussi une culture, c'est tout ça. Dans le vent, on a la même chose avec le producteur, toute l'histoire. Là, qu'est-ce qu'ils vendent comme histoire, vos vignerons ? C'est pas des vignerons, vos
alors, vos en fait, en l'occurrence, pardon. Parce que dans la famille
c'est
des boissons...
C'est très très bon, là, ce qu'on voit, mais...
Alors, la famille du sans-alcool, en gros, vous aurez les copies, dont le vin. Et en fait, les producteurs de vin désalcoolisés sont avant tout des vignerons et des producteurs de vin avec alcool. Ils font vraiment les deux. Ils peuvent quand même vous parler du terroir, en tout cas du cépage, des spécificités, etc. Et après, tous les créateurs, comme encore une fois Archipel, mais il y en a plein d'autres, c'est souvent des jeunes, donc c'est de l'innovation, de la recherche, c'est juste du plaisir en fait. Nous, on ne tient pas du tout, même quand on conseille nos clients, à reprendre les termes un peu sclérosés de la cuisse, de la robe, etc. On veut quelque chose de beaucoup plus simple, et d'ailleurs on voit très bien que ça marche, que la plupart de nos clients sont des néophytes et veulent juste prendre du plaisir en fait. Donc on va insister, là je vais peut-être insister sur les accords possibles, sur...
Alors ça va bien. Ce qu'on est en train de voir, c'est un accord avec quoi?
Alors, je pensais qu'avec du sushi, ça se marierait plutôt pas mal. Donc, ne sachant pas s'il y en aurait, j'avais amené ça. Mais sinon, avec des desserts, ça va très bien, des plats en sauce, etc. En fait, tout ça, on apprend. Donc, on apprend en faisant. Donc, on découvre tous. Encore une fois, ce produit-là, il est sorti il y a un mois à peine. Donc on le teste, on découvre. Il va rentrer sur certaines tables qui eux-mêmes, dont les chefs vont nous faire des retours aussi.
Et qu'est-ce que vous remarquez comme évolution justement de la culture ? Parce que la culture française, c'est forcément des accords mets-vin. D'ailleurs, on parle souvent d'accords mets-vin,
oui,
qui est quand même très, très ancré. Qu'est-ce que vous voyez depuis justement que vous avez créé cette cave comme évolution ?
Le rapport au sans-alcool est vraiment en train de changer. Enfin, déjà, nous, on reprécise à chaque fois qu'on n'est pas contre l'alcool. Encore une fois, on peut concilier les deux. Donc, on n'est pas pour arrêter l'alcool. On est plutôt pour promouvoir le sans-alcool ou en tout cas pour offrir une alternative à celles et ceux qui veulent un peu varier, quoi. Ce dont on se rend compte, c'est que ça change très vite. Là où il y a quelques temps, notre démarche n'était pas forcément comprise. Maintenant, y compris les producteurs d'alcool comprennent très bien que c'est pas contre eux. Donc il y a vraiment de la place pour à peu près tout le monde. Les grandes tendances qu'on voit, on voit vraiment les clients veulent des choses très complexes. Enfin, on est vraiment plus du tout sur des produits pour enfants. Alors un enfant peut boire ça, mais en fait il va pas forcément
l'apprécier.
Le goûter, exactement, l'apprécier. Donc c'est vraiment de plus en plus de complexité et de moins en moins de sucre aussi. On va vraiment se faire ces tendances-là. Et maintenant, pour 2025, pour nous, ce sera l'année des boissons salées aussi. Donc on voit qu'on va sur des notes salines et c'est super. Et justement, les sushis, ça peut très bien marcher.
Ah, salé et pas amer ou quoi, c'est vraiment salé.
Alors l'amertume, c'était pour nous un peu 2023-2024, le spritz, etc. Non, mais tout ça, évidemment, ça marche très bien.
Pas autant que moi.
Non, mais tout ça, c'est déjà en place et ça marche très bien. Et nous, on a envie d'aller explorer un peu les nouvelles pistes. Et pour nous, 2025, ce sera l'année des notes salines. Inside.
Oui, oui, comme je l'ai dit, et pas de virgule, et c'était Panchico Jinku. Voilà. Et je pense qu'ils sont très contents s'ils nous écoutent, mais je crois qu'ils habitent au UK, on est tranquille, non ?
Oui, allez-y, c'est allez-y. Ça, exactement.
Allez-y, je vous ai perdu, et moi-même, je ne sais plus très bien où j'habite. Ça doit être l'effet de ce merveilleux kombucha de la maison, j'ai oublié son nom.
Archipel.
Archipel.
En tout cas, Augustin, vous nous avez dit qu'il y avait de plus en plus, en tout cas, la tendance prenait, et de plus en plus de gens qui étaient intéressés. Est-ce que c'est intéressant de faire des mois, comme le Dry January, dont on parle souvent, qui... martèle un peu le coup, peut-être la tendance un peu marketing, c'est oui, un bon coup de projecteur.
Oui, exactement. Pour nous, c'est vraiment un moment important parce que justement, on va parler du sans-alcool en janvier, donc il y a un vrai intérêt médiatique, mais il y a aussi beaucoup de clients quand même qui en profitent aussi. Concrètement, pour nous, c'est quasiment 2 à 3 fois en mois normal, donc c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de monde. Samedi, on a même dû arrêter des clients parce qu'on n'a plus de place dans la boutique, etc. Donc il y a quand même, on est une petite boutique, mais quand même. Donc non, il y a un vrai effet janvier. Alors même avant d'utiliser le terme un peu marketing de Dry January, je pense que plus jeune, on a tous fait attention à nos bonnes résolutions de début d'année. Et en fait, souvent, l'alcool rentrait un peu dans ce sens-là. Donc non, en effet, janvier, c'est un mois important. Mais pour nous, en fait, le sans alcool, ça peut vraiment marcher toute l'année. Alors l'idée, encore une fois, c'est pas d'arrêter complètement l'alcool. C'est de savoir qu'il y a des alternatives, d'aller les rechercher, de les goûter, de se faire soi-même son avis là-dessus. Quoi.
Justement, qui sont les clients de votre cave ? Est-ce que c'est stéréotypé comme on pourrait s'imaginer ou pas du tout ?
Quel stéréotype ?
Des gens du 11e, par exemple.
Alors, il y en a, ou du 19e ? Oui, il y en a, évidemment. Non, en gros, ce qui est intéressant,
c'est que... qu'on ne dise pas trop de mal les gens du 19e, ouais. Merci. Je me sens visé.
C'est dans le 11e, votre cave, c'est ça ?
Elle est dans le 19e, mais il y a 19e. Beaucoup de gens du 11e. Enfin, en gros, pour faire bref, le stéréotype, ce qu'on nous dit, c'est en gros, vous avez que des bobos. Non, on n'a pas que ça. Il y en a évidemment et ils sont très bienvenus. Mais il n'y a pas que ça. En gros, ce qui est intéressant, c'est que nous, on touche potentiellement tout le monde. Donc, globalement, on a ce que nous, on va appeler des flexi-drinkers. Donc, des personnes qui vont, un peu comme les flexitariens, chercher une alternative. Donc, qui n'arrêtent pas l'alcool, mais qui veulent autre chose. Et quand ils ne veulent pas boire d'alcool, ils ne veulent pas être à l'eau plate, quoi, en gros. Mais à côté, il y a des publics très sympas, les femmes enceintes, les personnes qui cherchent autre chose pour des questions religieuses. Et là, on a de plus en plus de personnes âgées, retraitées ou pas, qui peuvent plus boire d'alcool et qui veulent quelque chose de sympa à table. Donc finalement, tout le monde a une bonne raison de venir chez nous, quoi.
Puis il y a aussi beaucoup de chefs qui se rendent compte que le sans-alcool, c'est parfois la meilleure option. Il y a un chef dans un restaurant à Toranomon, donc dans l'est de Tokyo, qui, quand il m'est sorti de la langue de bœuf, j'avais pris l'accord mets et vins, et puis là, il me sort une boisson à base de sudachi et d'orange de Wakayama, et il me dit « il n'y a pas d'alcool ». Et je regarde un peu étonné, et il me dit « si je te sers ça, c'est parce que je pense qu'il n'y a pas mieux pour accompagner ce mec que ce truc sans alcool. Il n'y a pas besoin de saké ou d'autres choses. Là, il y avait vraiment... Il pensait qu'il avait trouvé l'accord parfait avec une boisson sans alcool, et je sais qu'il y a aussi des chefs en France comme Bruno Verjus, etc. Alors pourtant, c'est un amoureux de vin qui n'hésite pas lui aussi parfois à accorder des mets avec des pairings sans alcool parce que parfois c'est là que ça fonctionne le mieux.
Comment vous avez dit, des sudachi ?
Sudachi, oui, c'est un petit agrume japonais. Vous voyez ça comme une fusion entre un citron vert et un kumquat.
En tout cas, on a toutes les adresses.
Ça me laisserait là.
On a toutes les adresses parisiennes de ces restaurants. Il y en a qui sont aussi très connus, qui proposent des boissons sous alcool tout à fait.
Oui, l'idée du guide, c'était en effet de présenter une centaine d'adresses, de bars, de restaurants qui ont une offre sans alcool intéressante. Alors, tous servent de l'alcool aussi. Hein. Ils ne font pas que du sans alcool, mais qui ont un intérêt, ou en tout cas une démarche pour. Et il y a en effet du haut de gamme, du moyen de gamme, du plus accessible, il y en a un peu pour tout le monde.
Mais vous, pourquoi vous faites un guide ? Parce que vous avez senti vos clients qui vous en demandaient, cherchaient ?
Oui, en gros, il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on nous demande, ok, là je sais que je peux l'acheter ici, mais où est-ce que, dans quel bar, dans quel restaurant, je peux aussi avoir une expérience de dégustation intéressante et pas être seul en bout de table avec mon eau pétillante et ma rondelle de citron, quoi.
Parce que vous vendez donc à des particuliers, mais aussi à des professionnels aujourd'hui.
On travaille aussi avec des restaurants. Exactement, on travaille aussi avec des restaurants dont certains sont dans le guide, mais pas que. On a aussi beaucoup de demandes d'entreprises qui n'ont pas le droit de servir d'alcool et qui sont très contents d'avoir ces options-là aussi, des mairies.
Il y a des restaurants japonais dedans. Enfin, j'essaie de faire des ponts. Hein.
C'est une excellente question. Je ne crois pas qu'il y en ait, mais ce sera pour la deuxième édition.
Je pense que Jade va vous aider en trouver.
Les Japonais sont quand même très chauvins. C'est-à-dire que même si j'achète des trucs sans alcool, ce sera des trucs qui viennent de chez eux. Ils ont, à part les grands vins français, parce qu'il faut faire une carte des vins, en général, plus il y a de trucs qui viennent du Japon sur la carte, plus ils sont contents.
Mais on a de l'amazake maintenant.
Eh bien, écoutez, je pense qu'ils seront très contents. D'autant plus, ça s'utilise dans la cuisine. On marine la dorade dedans.
Exactement. C'est très bon, j'ai découvert ça en fait.
Sashimi dorade, amazake, très bon.
C'est quoi l'amazake ? Je vais vous parler entre vous.
Je je vais pas dire de bêtises, mais c'est en tout cas celui que on propose. Perdu, hein. C'est une boisson à partir de riz fermenté.
C'est après, ça, exactement.
Et là, maintenant, on a une variante. Alors, il y a le traditionnel, et après, c'est un Français qui fait ça, épique, Raphaël qui fait ça dans le 11e. il fait ça après avec du sésame noir, du sobatcha.
Mais si le riz est fermenté, s'il y a un peu d'alcool, alors?
Il y a des traces d'alcool. Donc, c'est en France, une boisson peut être considérée sans alcool jusqu'à 1,2 degré. Ou 0,5 pour la plupart, en l'occurrence c'est inférieur à 0,5.
Qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui voudrait commencer à faire du sans alcool? Vous lui conseillez de commencer par quoi?
À boire sans alcool.
Si je viens demain chez vous et que je veux boire une boisson sans alcool.
Si vous êtes plutôt dans une démarche de retrouver ce que vous connaissez avec l'alcool, le plus simple c'est quand même les bières, parce que ça marche très bien maintenant, il y a vraiment des super brasseries qui s'y mettent. Si au contraire vous avez envie de sortir un peu, de découvrir éventuellement ces assemblages, ces boissons un peu gastronomiques, ce genre de choses.
Est-ce que vous avez beaucoup de jeunes, très jeunes, je pense presque lycéens, universitaires, qui viennent? Parce que je me demandais, est-ce que le rapport...
Alors les lycéens ne boivent pas d'alcool, s'il vous plaît, ils sont mineurs.
L'essentiel de notre clientèle, c'est plutôt 25, 30, etc. On a quelques jeunes, alors oui, on voit qu'il y a un vrai sujet sur l'alcool chez les jeunes, donc en gros on va dire 18, 20 ans. Certains viennent chez nous en effet parce qu'il y a, enfin, il y a plein d'histoires derrière, mais beaucoup qui veulent un peu moins boire ou en tout cas consommer différemment. Après voilà, on reste sur des produits, ce qu'on disait tout à l'heure, relativement chers ou en tout cas un peu artisanaux où il faut un certain budget, ce qui est rarement compatible. Et très très jeune.
Oui, justement, est-ce que vous avez peut-être une sélection qui serait un peu moins chère et qui pourrait intéresser les étudiants qui nous écoutent?
Très concrètement, toutes les personnes qui ont, avec moins de 10 euros, vous aurez des super boissons à boire chez nous. Il y a vraiment...
Qui serait plutôt vraie bière, du coup?
Qui serait, alors, soit dans les bières, soit des petits cocktails qui ne cherchent plus à copier de l'alcool, mais en gros, la bouteille, on est autour de 3-4 euros et on fait des réductions pour les étudiants. Il faut juste nous le dire à la caisse.
Je suis étudiant.
on vérifie pas, donc on vous prend sur parole.
Vous me verrez quand même. mais ce que je vais vous demander, c'était... j'ai oublié. Oui, si dans l'idée de l'alcool, il y a aussi l'idée de la fête, de l'amusement. Est-ce qu'on arrive à aujourd'hui expliquer que le sans-alcool peut être aussi festif?
Alors nous, on n'est vraiment pas sur la phrase qu'on entend tout le temps, sans alcool, la fête est plus folle. Elle est juste différente. On peut faire la fête sans... En fait, la fête, elle sera comme vous voudrez. Si vous voulez qu'elle soit amusante, qu'il y ait de l'alcool ou pas, elle le sera. Elle peut être... Donc c'est possible de faire la fête. J'ai passé des super soirées en boîte de nuit jusqu'à 6h du matin sans alcool et ça marche très bien.
Il y a des boîtes de nuit qui servent d'une œuvre de sans alcool de qualité?
Il y a des boîtes de
on
nuit,
boit pas
oui.
Des
alors,
dégueulasses, quoi. Enfin,
non, pour l'instant, il y a beaucoup de ginger beer. Donc ça marche très bien parce qu'en plus, le gingembre permet de tenir un peu plus longtemps. Il y a du maté, il y a des choses comme ça qui fonctionnent assez bien.
Et ça, c'est à Paris?
Et ça, c'est à Paris. Ouais, carrément.
Déjà, il y a encore des boîtes de nuit à Paris, oui. Vous voyez que vous pouvez m'emmener en boîte de nuit, Sybille, depuis le temps que je réclame.
Oui, j'ai hâte.
Après l'émission, on va manger des sushis et après, on va danser. Pardon, je laisse la parole.
Non, mais je pensais justement à cette pression sociale que pourraient subir des jeunes, comment on pourrait les aider dans cette quête,
elle est
justement.
Formidable.
Non, mais c'est vrai qu'on a beaucoup cette question-là. Nous, ce qu'on dit aux jeunes, c'est vraiment, encore une fois, c'est n'arrêtez pas l'alcool. Enfin, de toute façon, en tout cas, beaucoup vont boire, etc. Non, exactement. Puis on a tous bu, ça fait peut-être partie d'une forme de rite, quoi. Mais en tout cas, sachez qu'il y a une alternative, que vous n'êtes pas obligé de boire et que vous pouvez ramener une jolie bouteille entre amis sans avoir honte du tout. C'est des jolies étiquettes, des compositions très intéressantes. Donc il n'y a pas à avoir honte, il y a du choix et il y en a pour tout le monde, quoi.
Chad Ibrahim, vous pratiquez le sans alcool?
Écoutez, moi je bois jamais avec le sushi parce que je trouve que ça détériore le palais.
Donc
c'est que du thé. Oui. Sauf dans un ou deux restaurants où, malgré moi, le chef m'offre des verres, j'ai pas refusé des bons champagnes et des bons vins. Mais en principe, je bois rarement et quand je bois, c'est festif, on profite d'un moment particulier sans que ça devienne quelque chose auquel on s'accoutume.
D'accord.
Et il n'y a jamais de saké avec les sushis?
Alors, si, bien sûr, il y a plein de chefs qui font les accords saké et sushi, c'est juste moi, j'en veux pas. Pour moi, vu que je suis passionné du sushi, c'est eau et thé. Comme ça, je perçois vraiment le goût du sushi.
Et hors du sushi?
Hors du sushi, oui, plus.
D'accord,
mais
ouais.
Que dans des bons restaurants et des belles bouteilles. Si on boit, il faut que ce soit un moment mémorable, festif et heureux. Il ne faut pas boire pour boire.
Très bien, je crois que c'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Allez-y.
Je ne pourrais pas mieux conclure que ça. Il y a du choix pour tout le monde. Ouais.
Vous allez travailler sur... Si, quand même, vous aimeriez travailler sur des accords avec de vos boissons, avec des plats?
Plus tard que avant l'émission, il y a un restaurant 2 étoiles maintenant qui nous a demandé de se rencontrer pour faire un accord entier sur 8 plats. Donc ça arrive, ouais.
Ok. Merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Jadi Ibrahim, je rappelle, vous êtes l'auteur de La quête du sushi parfait aux éditions Les Arènes. Et vous, Augustin Laborde, vous êtes le cofondateur de La cave sans alcool, Le Pan qui. Oh, non, pardon. Vous êtes fondateur de Le Pan. Qui a écrit ça? Ça doit être moi. Vous êtes cofondateur du Pan qui boit, une cave sans alcool à Paris. Vous êtes surtout le co-auteur du guide du Paris sans alcool friendly aux éditions L'Indispensable. Je crois que j'ai jamais aussi mal lu un truc. Voilà. C'était présenté par Sylvie et Christophe à la réalisation. Il y avait L'Indispensable. Pablo, j'ai eu un doute pendant une demi-seconde. Je vous souhaite une bonne soirée. Sybille, vous allez boire quoi maintenant?
Eh ben, je vais rester là-dessus. Et puis j'ai testé d'autres kombucha, j'ai hâte.
Très bien, ben, merci beaucoup. On se retrouve dans 8 semaines pour un nouveau numéro 2. Tout un plat, il est 20h59 et bientôt 30 secondes. Bonne soirée.
Bonne soirée à tous.
Bonne soirée. Merci.
Radio Campus Paris. Il est 21h.